RCF.
18h10, bonsoir, soyez les bienvenus à l'écoute de votre 18-19 en Champagne-Ardenne, émission spéciale jusqu'à 19h, puisque je vous emmène ce soir du côté de la Haute-Marne afin de vous faire découvrir et vivre cette 26e édition du Festival International de Photos Animalières et de Nature qui s'est ouvert ce matin et va se poursuivre jusqu'à dimanche soir sur Montier-en-Der, mais pas seulement, sur au total 16 sites d'exposition avec plus de 100 expositions, 250 expositions exposants, et puis plus de 500 bénévoles réunis pour vous faire vivre un festival exceptionnel et international autour de la photo animalière. On est ensemble jusqu'à 19h avec de nombreux invités, notamment le président qu'on va recevoir dans quelques secondes. On aura également Étienne Clément de la Ligue pour la protection des oiseaux. On partira à la rencontre d'un photographe rémois, Michel Joliot. Le journal régional, comme d'habitude, à 18h30. Et on poursuivra avec la rencontre des deux parrains de cette 26e édition qu'on présentera tout à l'heure. On partira à la rencontre d'une maison nature du côté des Ardennes. Enfin bref, un programme très très riche jusqu'à 19h. Merci d'être avec nous et merci de votre fidélité à l'écoute de RCF en région. Pour commencer, rien de mieux que de recevoir à notre plateau délocalisé ici à Montier-en-Der avec Régis Fournel, président du Festival Photo Montier. Bonsoir monsieur. Alors, le mieux, c'est d'allumer le micro. Voilà. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous et merci de nous recevoir ici au sein de votre festival qui a 26 ans d'histoire qu'on présentera dans un court instant. Mais dans un premier temps, présentez-nous de façon générale à nos auditeurs de Champagne-Ardenne ce festival international de photos animalières et de nature. Ce n'est pas rien comme festival.
Alors, c'est exceptionnel puisque c'est le premier festival sur ce thème en Europe. On reçoit 45 000 visiteurs en 4 jours, mais je dirais que, et on dit d'ailleurs que c'est bien plus qu'un festival photo. Tout ça pour vous inciter, si vous n'êtes pas photographe, à venir à Montier, parce qu'on y parle de nature, on y parle de problèmes environnementaux, on y parle de matériel photo, on y parle d'agences de voyage basées sur la photographie. Donc en bref, on parle de la filière nature et photo dans son ensemble de A à Z.
Oui, d'ailleurs, on pourra en parler dans quelques instants dans cette émission. Vous parliez du côté technique de la photo avec des formations vers les appareils de photo.
Alors c'est spécifique à Montier parce que nulle part ailleurs ça n'existe, même pas au salon de la photo de Paris. C'est qu'on a toutes les grandes marques qui sont d'habitude concurrentes et là elles sont côte à côte et elles proposent de présenter leur matériel avec les meilleurs techniciens des grandes marques comme chez Nikon. C'est vraiment les techniciens professionnels qui s'adressent à un public de professionnels.
Régis Fournel, on parle de photos, de la nature, des animaux à travers des expositions, à travers aussi des conférences, des tables rondes et un concours aussi, le fameux concours de la photo.
Alors le concours, oui, c'est un événement dans l'événement puisqu'en cette année, on a reçu, je vais arrondir, 19 000 photos pour en sélectionner 90.
Exceptionnel.
Donc il y a un jury qui est hors de notre association, qui est composé de photographes professionnels qui se réunit pendant 3 jours et qui détermine l'exposition qui est présentée à Montier dans le site de l'abbatiale. Donc avec des thèmes bien différents comme les mammifères, les oiseaux, l'abstrait, l'homme et la nature. Enfin, il y a différents thèmes.
Alors vous parliez de l'abbatiale, Régis Fournel. On l'a dit en sommaire de cette émission, 16 sites d'exposition pour cette 26e édition. Ça part de Montier-en-Der, ça va jusqu'à Giffaumont-Champaubert, ça va jusqu'à Droit. Enfin bref, il y a de quoi passer un très bon week-end sur le secteur.
Donc Montier est à cheval, sur la Haute-Marne, la Marne et l'Aube, ce qui fait que nos sites d'exposition débordent principalement sur la Marne, sur le lac du Der. Et là, c'est là qu'il y a toutes les expositions matérielles, mais pas que. Il y a différents sites d'exposition que je peux pas nommer parce que je pense j'ai pas le temps. Mais si vous êtes curieux de nature, venez à Montier, même en faisant rien que les sites de la Marne, vous trouverez déjà beaucoup de centres d'intérêt.
Régis Fournel, président de l'association AFPAN L'Orvert, association organisatrice de ce festival Photo Montier qui fête ses 26 ans cette année. Un rendez-vous exceptionnel, comme on le disait il y a quelques instants, sur 4 jours, 16 sites d'exposition, avec beaucoup d'expositions, beaucoup d'exposants, beaucoup de conférences, enfin bref, autour d'une histoire derrière, une histoire 26 ans, une histoire assez originale. Est-ce qu'on peut brièvement la présenter, cette histoire, parce que je pense que vous faites partie d'ailleurs de la création de ce festival?
Oui, effectivement, en 96, à partir de l'Office du tourisme de Montier-Randère, on a eu l'opportunité d'avoir l'expo du concours de la BBC, le plus grand concours photo-nature au monde, et par l'intermédiaire d'une connaissance. Donc on avait la possibilité d'avoir cette expo pendant un mois à un prix raisonnable. Et avec quelques copains, on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir cette expo et de pas créer un concept autour. Donc on a invité d'autres photographes, dont pas des moindres, puisqu'il y avait déjà Vincent Munier, qui est devenu le plus grand photographe français de nature, photo nature animalière, qui avait 16 ou 17 ans à l'époque, qui était avec son père, Pascal Bourguignon, qui a fait carrière aussi dans la photo, etc. Et en plus des photographes, on a invité les associations nature, quelques films, quelques conférences. Donc à la limite, on avait déjà le concept qu'on a aujourd'hui.
Le concept aujourd'hui, 26e édition, autour cette année de la biodiversité.
Alors, cette année, c'est autour de la biodiversité, mais je dirais depuis 26 ans, le thème, c'est autour de la biodiversité.
Ça n'a pas changé.
À partir du moment où on traite de la nature, on est obligé de traiter de la biodiversité. Bon, ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'au début, ce qu'on voulait montrer, c'était ce qu'il y avait de beau, des beaux portraits, des gros plans. On pensait que de montrer le beau, ça les gens protégeraient ce qu'ils aiment, ce qu'ils trouvent beau. Et maintenant, on est plus orienté sur des thèmes engagés. Les photographes se sont eux-mêmes engagés et nous ont obligés, je veux dire, à changer, à évoluer. Donc, effectivement, on s'engage maintenant aux côtés des photographes pour présenter des sujets sur le réchauffement climatique, tous les sujets d'actualité sur les inondations, sur les problèmes de sécheresse. Les photographes sont des grands voyageurs. D'ailleurs, certains se posent des questions parce que passer la moitié de leur année dans les avions, c'est pas sans poser des problèmes.
Bien sûr. Alors, c'est pour cette nouvelle édition, de nombreux visiteurs sont attendus. Je reviens vite fait en arrière, puisqu'il y a 26 ans, on parlait d'un festival un peu plus local, on parlait de 4000 visiteurs sur les premières éditions du festival. Oui. Maintenant, ça devient un festival international. On est passé de 4000 à plus de 45 000 pour ces dernières éditions.
Effectivement, mais à notre grande surprise, la première année, on a eu pas loin de 4000 visiteurs. Je sais plus exactement, parce que tout n'était pas payant. C'était quelques euros l'entrée, quelques francs.
Ça nous rajeunit pas.
Et avec un tout petit budget de communication, on a eu 4000 visiteurs, mais qui venaient c'était pas des locaux, c'était des gens qui venaient déjà de la France entière. Pourquoi? Parce que c'était la période de migration des grues. Donc il y a les ornithos qui ont vu la pub qui est passée dans la LPO, l'Oiseau Magazine, oui, le magazine de la LPO, et qui ont débarqué de Marseille, de Bordeaux, avec leurs longues vues, et ils se sont dit, tiens, on va aller faire un tour au festival. Et on a été vraiment surpris de voir les plaques numérologiques des voitures.
Plus de 45 000 attendus pour cette 26e édition. Monsieur Fournel, avant de nous quitter, on a ce rendez-vous donc tant attendu jusqu'à dimanche soir pour le grand public. Quand on dit grand public, on parle pour les adultes, mais aussi pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, depuis ce matin, depuis l'ouverture, de nombreux jeunes sont venus à ce festival.
Donc vous avez raison d'insister là-dessus, parce que notre association travaille beaucoup avec les scolaires, et on pense que les citoyens de demain sont les enfants d'aujourd'hui, ou l'inverse, les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain qui seront amenés peut-être à amener le changement de comportement. Donc aujourd'hui, par exemple, et demain, on a à peu près 3500 scolaires qui ont un programme propre dans le programme, avec des conférences, des spectacles, des associations, des ateliers, tout ce qui peut éveiller la sensibilité de la nature.
Alors, avant de nous quitter, un mot sur cette journée inaugurale, Monsieur Fournel. L'inauguration qui a eu lieu cet après-midi aux alentours de 15h30, même si les portes sont ouvertes depuis 9h. Un petit mot sur cette journée inaugurale, tout s'est bien passé pour vous?
On va dire oui en partie parce que
la météo n'était pas au rendez-vous
avec nous. Mais je dis c'est pas trop grave parce que le jeudi le vendredi on a tous les passionnés qui viennent de très loin, qui ont programmé quelle que soit la météo, qui ont programmé leur venue en Montier. C'est plus important qu'on ait moins de pluie le samedi et le dimanche. Donc on a eu, d'après les chiffres de la billetterie, les chiffres sont pas arrêtés, mais d'après la billetterie, les billetteries, on est à peu près sur le
même niveau que l'année dernière.
Sur le même niveau que l'an dernier.
Et bien, en tout cas,
qui était la deuxième année depuis 26 ans.
Et bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, voilà. Régis Fournel. Ouais. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Je sais que la journée est loin d'être terminée pour vous. Très bon festival et à très bientôt sur RCF.
Merci de nous avoir invités et on espère qu'on aura beaucoup de vos auditeurs qui viendront nous voir.
Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite et on les invite, nos auditeurs, ce soir de la Champagne-Ardenne. Merci Régis Fournel, je rappelle, président du festival Photo Montier, de l'association, je rappelle, voilà, AFPAN, l'Orvert, qui est l'association organisatrice de ce festival de photo à Montier-Andère. Il est 18h, passé de 21 minutes.
Le 18-19 en Champagne sur RCF.
Et dans 9 petites minutes, on retrouvera bien sûr l'actualité régionale sur les ondes de RCF en région. Mais avant cela, on a d'autres acteurs avec nous qui vont se poursuivre. Alors, on n'a pas eu le temps de présenter avec le président Régis Fournel les deux parrains de cette édition. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, on les retrouvera après le journal régional de 18h30. Mais avant cela, parlons de la Ligue pour la protection des oiseaux. On parlait de photos de nature, des animaux, ça tombe très bien, on est parfaitement dans la thématique de la biodiversité. Et avec nous, Étienne Clément, qui est le président de la LPO Champagne-Ardenne et de la région Grand Est. Étienne Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans ce direct, ici depuis Montier-Andère. La LPO, il n'y a pas à dire le contraire, la LPO a sa place ici au sein de ce festival.
Absolument.
Montier-Andère.
Oui.
Alors, Que faites-vous concrètement ici à ce festival ?
Alors en fait, on est impliqué à différents niveaux. Donc on a un stand effectivement sur lequel on accueille les gens et on fait beaucoup d'informations. On répond aux questions avec énormément, enfin sur un 360 degrés parce que ça va sur... Ah, j'ai vu tel oiseau dans mon jardin, qu'est-ce que c'est, etc. Donc ça peut être très, très
basique. Vous êtes
basique.
Là pour les conseiller.
Pour les conseiller, voilà. Les gens qui demandent effectivement des conseils sur comment on peut aider les oiseaux d'hiver, comment on met des nichoirs, enfin des choses qui sont plutôt pratiques, comment on compte les grues. La question qu'on a cette année, c'est il y a moins de grues cette année, est-ce que c'est normal ? Voilà, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le stand d'information, nos grandes missions, nos grandes campagnes, etc. On est impliqué aussi sur différentes interventions et conférences. Donc j'en ai mené une, moi, en début d'après-midi sur le statut des espèces,
oui.
La classification des espèces, parce que c'est, voilà, il y a beaucoup de gens qui posent aussi des questions dans ce domaine-là. On a aussi deux salariés qui ont mené d'autres interventions cet après-midi sur l'évolution du lac du Der en termes d'espèces et puis sur ce qu'on appelle les atlas de la biodiversité communale. J'ai encore une intervention. Demain soir, on anime un débat avec après un film, Bird of America, donc qui est centré sur Jean-Jacques Audubon. Et puis j'ai encore une intervention samedi matin. Donc voilà, on est aussi impliqué là. On a nos animateurs qui accueillent des classes, mais sur le lac du Der.
D'accord.
Directement, pas ici. Bah d'accord. Oui, parce qu'on se dit, voilà, on a quand même le lac pas très loin. C'est important de faire découvrir.
Bien sûr.
Donc on est voilà très très impliqué à différents
très mobilisé.
Niveaux.
Voilà. Très mobilisé pour conseiller le grand public à travers votre stand qui est situé sous le chapiteau.
Sous le chapiteau là-bas avec toutes les associations.
Voilà. Et puis donc en même temps vous animez des tables rondes, des conférences tout au long du week-end sur différentes thématiques. Et à côté de cela, eh bien vous proposez aussi des animations tout au long de l'année.
Oui.
Tout au long de l'année, oui, c'est bien ça. Hein.
C'est oui,
pas
c'est
uniquement
ça.
Sur une période bien spécifique.
Oui, oui, et sur toute la Champagne-Ardenne.
Toute la Champagne-Ardenne.
C'est-à-dire qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle les groupes locaux, c'est-à-dire que notre siège est à côté du lac du Der.
À Outine.
À Outine, voilà, c'est ça. Mais en fait, on a des groupes locaux un peu partout en Champagne-Ardenne. Donc ce sont des locaux qui sont regroupés sur Reims, sur Châlons, sur Épernay, sur Troyes, ici sur le lac du Der, sur le sud de la Haute-Marne. Et en fait, chacun, là, de manière plus autonome, propose un certain nombre d'animations. Donc ça peut être planter une haie, faire de la pose de nichoir. Enfin, c'est très. On a un chantier qui arrive là au mois de janvier sur en forêt pour recréer des petites mares pour un crapaud qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. Donc en fait, il y a à faire toute l'année. Forcément, puisque dans la nature, les choses ne s'arrêtent pas. Bien sûr. Et on essaye de se mobiliser en fonction de nos disponibilités, de nos moyens. Quoi.
Avant de nous quitter, Étienne Clément, un mot sur la fête de la grue et de la migration, hein, qui n'était pas si loin que ça, par rapport à ce festival à Montier-en-Der. Un mot sur cette dernière fête de la grue et de la migration, en termes de présence de grues sur notre territoire, en termes de retombées, niveau du public, comment ça s'est passé?
En termes de fréquentation, on a eu un peu moins parce que forcément, la météo fait que en tant qu'événement extérieur, forcément, ça joue.
Ça joue beaucoup.
Il y a un peu moins de grues cette année qui sont arrivées parce que les vents sont contraires depuis pas mal de temps et donc du coup, les grues sont pas toutes descendues. Donc là, c'est pareil, c'est un élément levier qui était pas là. Par contre, on a eu très très beaux moments. Donc on essaye de mêler un peu d'artistique, de culturel pour essayer d'ouvrir aussi, de pas être uniquement entre nous en tant qu'initiés.
Bien sûr.
Et les spectacles qu'on a proposés, franchement, on fait le plein avec des gens qui viennent de partout en France, beaucoup de gens qui viennent de Belgique, de Suisse, Pays-Bas. Donc
les gens viennent de loin.
C'est une belle manifestation avec un rayonnement qui va bien au-delà du local.
Au-delà de notre département, notre territoire,
absolument.
On va dire. Merci beaucoup, Étienne Clément.
Merci.
Je rappelle que la LPO est à retrouver donc à cette 26e édition du Festival international de photos animalières et de nature, donc jusqu'à dimanche soir, sous le chapiteau, aussi à travers différentes conférences que vous menez ainsi que votre équipe. Et pour l'actualité de la LPO, à retrouver sur les réseaux sociaux également,
et le site internet.
Voilà, oui. La LPO. Champagne-Ardenne, LPO Grand Est ?
Champagne-Ardenne.
Champagne-Ardenne.
Voilà. Et on a une page Facebook Grand Est, mais bon, on a du mal à tout
animer.
Tout animer, voilà. La communication
c'est
demande
dur, la
beaucoup
communication
de travail
ce moment. Merci Étienne Clément d'avoir été avec nous à notre plateau ici au sein de Montier-en-Der. Je rappelle président de la LPO Champagne-Ardenne et du Grand Est. On vous souhaite un très bon festival ici du côté de Montier-en-Der.
À Reims,
Chalon. Charleville-Mézières, c'est le 18-19 en Champagne sur RCF.
18 heures passées de 27 minutes en direct sur RCF en région. Je vous en prie, monsieur Joliot, installez-vous pendant ce direct. C'est la magie du direct. On est ensemble jusqu'à 19 heures depuis Montier-en-Der afin de vous faire vivre ce festival international de photos animalières et de nature. Alors, on a le journal régional dans quelques minutes. On risque d'avoir un petit peu de retard. C'est la magie du direct. Priorité forcément à nos invités. Je vous en prie, monsieur Joliot, prenez le micro. Bonsoir, monsieur Joliot.
Bonsoir.
Un fidèle j'ai envie de dire, et un photographe assez reconnu du côté de Reims. Vous êtes Rémois.
Oui.
Et on peut le dire que vous êtes quand même quelqu'un d'assez connu dans le sens où on vous retrouve un petit peu partout au niveau des événements de Reims quand même. Présentez-vous en quelques mots.
Eh bien voilà, je suis photographe depuis bien longtemps, début des années 80 carrément. Je suis éditeur de livres, j'ai sorti mon 19e livre en début d'année et c'est à ce titre que je me trouve à Montier-en-Der pour présenter ce travail, Les Mondes Parallèles.
Photographe depuis de nombreuses années, mais quelles photos faites-vous concrètement ? Sur quelle thématique vous tournez un peu de... C'est un peu varié.
J'ai beaucoup de domaines. Je suis spécialisé dans les reportages événementiels, dans les entreprises, certaines institutions et particulièrement les maisons de champagne à Reims et à Épernay.
Du côté de la vigne, un peu du côté du sport aussi, ça vous arrive de temps en temps de vous retrouver un peu dans le domaine du sport?
J'ai fait les photos du stade de Reims pendant 6 ans, mais il y a déjà bien longtemps.
Ah oui, moi je m'en souviens, d'origine, je m'en souviens.
Oui, et donc je fais beaucoup de reportages, j'ai une banque d'images, je m'occupe aussi de traiter les images anciennes d'entreprises, etc. Voilà, et j'édite et je distribue mes livres et j'expose particulièrement beaucoup les mondes parallèles depuis quelques quelques mois. L'exposition qui est présentée à Montier-en-Der a été facilitée au départ par la mission Coteau Maison et Cave de Champagne.
Oui.
Et la région Grand Est, la mairie d'Épernay, voilà, Moëté-Chandon, majuscule, etc. Et cette exposition a tourné à Épernay, puis à Reims, à l'Union des Maisons de Champagne, puis dans des villages de la Côte des Blancs, Avize, etc.
Et donc à ce festival, vous êtes présent pour exposer à la fois quelques clichés, mais aussi donc votre dernier livre.
Oui, voilà. Alors l'exposition qui a été constituée au départ est destinée à être exposée en extérieur. Donc là, elle est il y a 33 photos d'un mètre par un mètre qui sont en extérieur, accrochées savamment par les services du festival. Sur une allée de tilleuls qui mène à l'église, donc en plein cœur
de
Montier-en-Der. Et comme je peux pas passer toute ma journée dehors, en plus gentiment, donc j'ai deux grandes tables au haras où a défilé aujourd'hui pour le premier jour une foule nombreuse, intéressante et fort sympathique. Donc à ces personnes qui, pour la plupart, ont déjà traversé l'allée de Tilleul où sont accrochées les grandes photos, eh bien, ils viennent prendre mes explications et consulter mes livres.
Donc le livre, on peut d'ailleurs le présenter en quelques mots, et puis moi je vais profiter à travers la photo, la vidéo, et bien de présenter ce livre, Les mondes parallèles, par Michel Joliot.
Voilà. Donc il s'agit de fragments de photos, de macro-photographies, de détails de ceps de vigne et d'écorces d'arbres et de certains lichens aussi, pris en Champagne, dans la forêt des Ardennes et beaucoup dans le Vaucluse où j'ai trouvé des énormes ceps très anciens. Donc je prends une macro-photographie d'un détail que je choisis, que je repère, et je découpe donc un morceau de cette macro-photographie. Je fais son inverse, j'assemble les deux parties qui créent. J'ai traité plus de 2000 photos et j'ai trouvé 150 photos intéressantes. Donc j'ai passé beaucoup de temps à arpenter les vignes photos et les bois, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir certaines créatures, etc., qui apparaissent au moment de cet assemblage.
Donc le livre à découvrir ici au festival.
Tout
et
à fait.
Puis l'actualité, vos images, vos prestations, vos chefs-d'œuvre, voilà, entre guillemets. On peut donc vous retrouver sur internet.
Oui, sur mon site joliot.com, J-O-L-Y-O-T.
Oui.
L'exposition Les mondes parallèles est aussi présente dans la Gare TGV de Besanne.
Oui, c'est
depuis
vrai.
5 mois maintenant. Mmh. Bon, j'espère qu'elle va y rester encore longtemps, pourquoi
c'est
pas.
C'est ce qu'on vous souhaite.
Et voilà.
Et je trouve que voilà, ça décore bien quand même la gare. C'est quand même une bonne chose de voir un petit peu à la fois des clichés d'un photographe local, d'autant plus montrant un petit peu le territoire local.
En partie locale, c'est ça. Et puis en plus, ça interpelle aussi les enfants qui s'amusent à découvrir tel ou tel animal ou personnage.
Merci beaucoup Michel Joliot d'avoir pris ces quelques minutes
Merci
ce soir dans cette émission spéciale. Je vous souhaite un très bon festival, une très bonne fin de semaine,
voilà.
Et puis à l'occasion sur les ondes de RCF pour faire vivre un petit peu votre actualité, que ce soit à RCF Reims Ardennes ou à RCF Cœur de Champagne.
Sans faute. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Michel Joliot, d'avoir une très bonne soirée. Il est 18h passé de 34 minutes. On est un petit peu en retard, mais tout de suite, c'est le journal régional. Et dans l'actualité de cette édition, ce soir, on va revenir sur le Conseil régional du Grand Est qui s'est réuni ce jeudi à Metz avec au menu le budget, les transports, la formation ou encore la sécurisation des lycées. Et on va faire un clin d'œil là-dessus. Dans ce journal ce soir, on va s'intéresser au Beaujolais qui fait son retour ce jeudi. On en parlera dans un court instant avec Alexis Claudrette de RCF Reims-Ardennes.
L'information locale sur RCF, Christopher Fausten.
Et nous commençons tout d'abord avec le Conseil régional Grand Est qui s'est réuni ce jeudi. Alors, Avant de démarrer ce journal, je tiens à remercier Michel Joliot qui nous dédicace son livre. Merci beaucoup. Et c'est avec grand plaisir qu'on fera vivre ça en photo sur les réseaux sociaux. Merci Michel Joliot. Alors, on revient à l'actualité. Désolé, la priorité au direct. Le conseil régional Grand Est qui s'est réuni ce jeudi à Metz. Au menu, le budget, les transports, la formation ou encore la sécurisation des lycées. Sur ce point, après l'assassinat d'un professeur à Arras, la région réaffirme son plan pluriannuel de 92 millions d'euros. Pour la sécurité des établissements, Franck Leroy, président de la région Grand Est, souligne toutefois la complexité de cette tâche.
On n'arrivera jamais, et tous les présidents de région pourraient vous répondre la même chose, à sécuriser à 100% nos lycées, parce que ce sont des espaces où les allées-venues sont quasiment la règle. On a tous été lycéens à un moment ou à un autre. Vous savez comment fonctionne un lycée. Les cours ne commencent pas tous au même endroit, au même moment. Vous êtes parfois sur des sites différenciés. Vous avez les sites sportifs qui sont parfois à proximité des lycées ou dans les lycées, parfois à l'extérieur. Et que donc les mouvements d'entrée et de sortie sont incessants. Si, par exemple, il fallait généraliser les portiques de sécurité ou la fouille à l'entrée des lycées, vous imaginez le nombre d'agents qu'il faudrait pour faire ce travail, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour permettre à des lycéens, ils sont parfois 1500, 1800 ou 2000 à entrer en même temps dans un lycée, s'il fallait passer 2000 personnes sous les portiques de sécurité, il faudrait entre 20 minutes et 30 minutes pour faire entrer tout le monde, ce qui n'est pas envisageable. On a des sites scolaires qui parfois se déploient sur plus de 8 ou 10 hectares. Ça veut dire que, évidemment, on peut pas mettre des murs à 4,50 m autour de nos lycées. Les villes le refuseraient et ce serait une atmosphère encore plus anxiogène et en tout cas des travaux complètement démesurés. Donc il faut avoir la sagesse d'examiner lycée par lycée la situation. Nous avons une relation avec l'ensemble des proviseurs qui leur permettent de mettre en évidence les faiblesses de leur lycée, les tensions qui peuvent exister autour des lycées, qui sont plus souvent d'ailleurs des tensions liées à des petits trafics locaux qu'à des problématiques de terrorisme. Mais dire que demain on sécurisera l'ensemble des établissements scolaires de France, que ce soit des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges ou des lycées, c'est absolument impossible. C'est des dizaines de milliards qu'il faudrait investir, alors même qu'on n'aura pas pour autant l'assurance.
Pour Franck Leroy, la sécurité des lycées n'est pas qu'une question de moyens. Elle repose aussi sur le lien avec les collectivités et l'éducation nationale.
Il faudrait recruter des dizaines de milliers d'agents de sécurité, alors même que par la configuration même des lieux, on n'aura jamais l'assurance qu'aucun attentat ou qu'aucune agression ne peut être évitée dans ces lycées. Je pense qu'il faut agir avec détermination partout là où on nous signale des tensions, des risques, etc. On le fait, et on le fait en communauté de pensée avec les proviseurs qui sont quand même les meilleurs connaisseurs des tensions qui existent dans les lycées. Et puis en même temps, un certain nombre de travaux sont entrepris, et à partir du moment où on fait des travaux, sécuriser une entrée de lycée, une sortie, les abords d'un lycée, c'est les sujets qu'on examine avec les communes dans lesquelles on est implanté. On a aussi des communes qui sont ultra performantes en matière de vidéoprotection, là où d'autres communes n'ont pas du tout de dispositif de vidéoprotection. Donc il faut faire du cas par cas, mais en tout cas, les déclarations ambitieuses sur le fait qu'on doit garantir la sécurité, etc., tout ça c'est de la démagogie. C'est absolument impossible en France comme ailleurs. Il n'y a pas un pays européen qui serait capable d'assurer, même peut-être un pays au monde, capable d'assurer une sécurité totale dans les lycées. Regardez ce qui se passe malheureusement aux États-Unis. L'obsession sécuritaire est sans doute plus importante que chez nous. C'est quand même là-bas qu'il y a le plus d'attentats ou de massacres, parfois dans des écoles ou dans des lycées. Garder la mesure des choses, être vigilant, faire de la prévention là où on peut en faire, équiper ce qui mérite d'être équipé. On a aussi, par ailleurs, bien d'autres investissements à faire. Et évidemment, les arbitrages que l'on fait sont faits en lien étroit avec les proviseurs qui sont, non pas les donneurs d'ordre, mais en tout cas ceux qui vont, par la vie qu'ils vivent dans ce lycée, être à même de prioriser les investissements qui leur sont importants pour le fonctionnement du service public de l'éducation que nous assurons à travers la gestion de nos lycées.
Des propos recueillis par Sébastien Souissi pour RCF. Selon Franck Leroy, un effort doit aussi être fait par la région pour former les personnels des lycées aux questions de sécurité. Tout autre sujet, les Beaujolais nouveaux sont arrivés ce jeudi, Alexis.
Et oui, Christopher, comme le veut la tradition, les Beaujolais nouveaux ont été mis en vente à travers le monde entier ce jeudi. Troisième jeudi du mois de novembre, présentation du millésime 2023 avec Clément Roger, le Marnais d'origine et désormais caviste au temps des vendanges à Toulouse.
Un Beaujolais dans toute sa splendeur, de fruits faciles à boire et rassembleurs. Un vin convivial qui est justement populaire et festif, très juteux, gourmand et facile à boire. 2023 était un millésime déjà en termes d'équilibre un peu mieux que 2022, qui a été un millésime particulièrement chaud. je pense que bon nombre de personnes vont s'en rappeler. 2023 était un millésime qui était un peu plus équilibré, d'une part par des pluies qui étaient un peu plus présentes, même si on a eu un gros coup de chaleur lors des vendanges. À noter aussi des périodes de gel, de grêle, donc des quantités moindres. Et la vigne est une plante qui se souvient de ce qui s'est passé. Elle a puisé dans ses réserves pour donner justement un jus de 2023 qui est un peu plus équilibré, mais avec moins de quantité.
Évidemment, dans l'appellation Beaujolais, selon les domaines, la perception du goût du vin n'est pas la même. Alors, pour la dégustation, Clément nous aide à sélectionner quelques domaines à accorder avec des mets.
Moi, je suis très très amoureux des Beaujolais de Petit Max, qu'on appelle aussi Guy Breton, c'est son surnom dans le Beaujolais, Petit Max, qui fait des Beaujolais racés mais très fins. Et ces primeurs ont toujours cette note un peu évoluée, qui ne fait pas justement ce côté banane, qui est souvent détesté de la plupart de la population. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et j'aime beaucoup aussi les Beaujolais nouveaux du domaine Saint-Cyr, qui est un peu plus au sud, qui est pas très loin des portes nord de la ville de Lyon, et qui fait des Beaujolais typiquement de ce qu'on attend d'un Beaujolais, vraiment très classique, avec très peu de matière, très juteux, très gourmand. Et c'est les deux domaines qui m'ont vraiment marqué cette année. Et si vous voulez faire le grand classique à la française, si vous êtes plutôt tradition, je vous recommande un Sabot des Lyonnais, qui est un saucisson emblématique de Lyon, ou alors le Cocovin, qui est un plat emblématique dans le Beaujolais. Sinon ensuite, comme je vous disais, le côté rassembleur, une tranche de pâté sur votre charcutier, ou un bon fromage crémeux comme un Saint-Marcellin, ira très bien sur votre fromager.
Attention, si ce soir vous participez à des soirées dégustation, on rappelle que l'alcool est toujours à consommer avec modération.
Et évidemment, si vous consommez de l'alcool, ne prenez pas le volant. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent tous les départements à se mobiliser pour exiger de l'État une vraie vision d'avenir pour l'agriculture et une préservation de notre souveraineté alimentaire avec une pause normative, des ambitions et des leviers financiers. Dans la Marne, la FDSEA et les jeunes agriculteurs donnent rendez-vous à tous les agriculteurs devant la préfecture de Châlons-Champagne demain à le 24 novembre, pardon, à 10h30, des tracteurs convergeront de toute la Marne vers la préfecture. La Champagne-Ardenne est toujours placée en vigilance jaune pour pluie-inondation. Jusqu'à 15 mm encore attendus ce soir et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 70 km/h dans l'Aube, 80 km/h dans la Haute-Marne. Le temps s'annonce plus calme en théorie pour demain avec quelques éclaircies en seconde partie de journée. À 18h passées de 42 minutes, ainsi s'achève ce journal régional. Nous poursuivons le 18-19 depuis le festival à Montier-en-Der.
Le 18-19 en Champagne sur RCF.
Et oui, nous sommes toujours en Haute-Marne, ici pour vous faire vivre cette 26e édition du Festival international de photos animalières et de nature qui a ouvert ses portes ce matin et va se poursuivre jusqu'au 19 novembre, jusqu'à dimanche soir avec beaucoup d'expositions, beaucoup d'exposants, beaucoup de conférences, enfin bref, beaucoup de choses sur 7 sites différents, notamment à Montier-en-Der où nous sommes actuellement. Alors dans cette 26e édition, on a des parrains pour cette 26e édition. Nous avons Pascal Maître et Olivier Larrey qui sont avec nous ce soir justement pour eh bien se présenter et nous expliquer un peu leur raison d'être ici à Montier-en-Der. Olivier Larrey, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes, on va faire un tour de rôle parce que on va passer chacun à votre tour le micro. Alors vous êtes un photographe plutôt animalier, c'est bien ça?
Oui, exactement, ouais.
Photographe animalier, et vous êtes donc parrain de cette édition. Comment est venue l'idée de vouloir être justement parrain d'un tel festival?
Alors, on est invité hein, en tant que parrain, on nous l'a proposé, et donc c'est un honneur. Ça fait 14 ans que je viens au festival tous les ans, et quand on m'a appelé pour me demander si je voulais bien être parrain du festival, bah, c'était un grand honneur pour moi, évidemment, j'ai accepté.
Quand on dit photographe animalier, c'est-à-dire?
Ben en fait, je fais principalement des animaux en photo, un petit peu de paysage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les régions froides en général. Donc, je m'intéresse aux grands animaux des régions froides, en particulier l'Europe du Nord.
L'Europe du Nord, alors c'est-à-dire où à peu près, si on peut situer un petit peu?
Alors, de manière précise, oui. Mon terrain de prédilection, c'est la Finlande. Et d'ailleurs, le projet que je présente cette année à Montier-en-Der se tient en Finlande. C'est un projet sur les loups, un projet de 80 jours à suivre une meute de loups à la frontière entre la Russie et la Finlande, un peu sous le cercle polaire.
Comment est venue l'idée de cette passion d'être photographe, de faire des photos d'animaux, notamment dans ces pays-là, on peut dire ça comme ça?
Alors, En fait, j'ai commencé par m'intéresser aux oiseaux. C'est mon premier centre d'intérêt. J'ai commencé vers l'âge de 10 ans. Donc, mon premier outil pour m'intéresser à la nature, ça a été des jumelles. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'utilise toujours les jumelles avant l'appareil photo. Et après, le côté pays du Nord, ça vient vraiment de ma grand-mère qui me racontait les aventures de Paul-Émile Victor au Groenland avec tous les animaux qui l'ont lui-même fasciné. Et donc, moi, j'ai vraiment été touché par ça. Et encore aujourd'hui, j'ai une prédilection vraiment forte pour les pays du Grand Nord.
Vous êtes photographe de la région ?
Alors non, moi j'habite dans la région de Montpellier.
Montpellier ?
Montpellier 7, précisément. Oui. Donc en fait, je me climatise en allant vers le froid, puisque j'habite dans une région assez chaude. Oui. Et ça va assez bien, cette alternance entre région méditerranéenne et les pays du Nord.
Et donc vous avez été invité à être parrain de cette édition. Vous l'avez connu depuis combien de temps, ce festival ?
Alors ben, je le connais depuis une vingtaine d'années. Hein. La première fois que j'y suis venu, c'était il y a 14 ans.
Oui, c'est pas votre première.
Et depuis, je viens chaque année.
Oui.
Alors, j'ai eu l'occasion déjà d'exposer, mais jamais avec un aussi bel espace que cette année.
Et puis donc, c'est l'occasion pour vous, eh bien, de vous exposer ici également dans ce festival.
Bien sûr, et de rencontrer aussi plein d'autres photographes. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois de partager son travail avec le public, mais aussi
partir à la rencontre.
Partir à la rencontre du public. Mmh. Et le public vient beaucoup à nous, hein, puisque en tant qu'exposant, on est assez statique, mais c'est aussi de faire des belles rencontres d'autres photographes ou d'autres naturalistes qui travaillent sur d'autres thèmes avec beaucoup de passion. Et donc, c'est très stimulant et ça donne c'est un magnifique observatoire de ce qui se fait au niveau de la photo de nature en général.
Vous continuez toujours dans l'objectif d'aller toujours dans les régions froides, entre guillemets, pour vos futurs clichés ?
Alors oui, moi, j'aurais tendance à dire qu'avec le temps, j'ai plus ça va et moins j'ai envie de faire quelque chose de très différent et plutôt envie de capitaliser sur ce que j'ai déjà fait depuis 10 ans. Et donc, je vais continuer à travailler sur la Finlande ou sur les régions polaires parce que finalement, ça m'habite. Et donc, j'ai envie de continuer à développer des projets différents, mais toujours sur les mêmes territoires.
Alors, on a nos auditeurs qui nous écoutent de toute la Champagne-Ardenne. Donc, ça va des Ardennes jusqu'en bas de la Haute-Marne, y compris l'Aube. Les auditeurs qui ne peuvent pas venir et qui ne peuvent pas vous découvrir, est-ce qu'il y a moyen de vous découvrir autrement, sur Internet par exemple ? Est-ce que vous êtes exposé sur Internet ?
Oui, alors ils peuvent aller sur le site qui s'appelle olivierlaret.org, également sur les réseaux sociaux où je poste pas mal de mes photos. Donc c'est une bonne façon, simple, de découvrir un petit peu mon travail.
Merci beaucoup, Olivier Larrey, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite bien sûr un très bon festival, à la fois pour exposer ce que vous faites, exposer vos clichés, et comme vous le disiez, et ça c'est vraiment très important de l'avoir appuyé sur RCF, de partir à la rencontre des autres photographes, que ce soit de la Champagne-Ardenne ou même au-delà, j'imagine. Donc merci à vous d'avoir pris ces quelques minutes. Alors on a un autre parrain avec nous, Pascal Maître, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, grand reporter et photojournaliste, racontez-nous un petit peu votre parcours photojournaliste.
Alors moi je travaille essentiellement pour la presse.
Oui.
Donc je fais des reportages de presse qui sont normalement, ce que je fais surtout, c'est de la géopolitique.
D'accord.
Du news magazine, quoi, et je fais très peu de choses liées à la nature.
Depuis combien de temps ?
Oh là, 40, je ne sais plus.
79. On ne compte plus.
Depuis 79.
Depuis 79,
donc
d'accord.
Ça fait un moment.
Photojournaliste au niveau national ?
Non, je travaille pour National Geographic, je travaille pour Stern en Allemagne, Géo en Allemagne.
Ah oui.
Et en France, Paris Match, Géo, Figaro Magazine. Donc, je travaille un peu pour plein de journaux différents.
Et donc, vous proposez également une exposition. En plus d'être invité en tant que parrain de cette 26e édition, vous exposez eh bien, vos différents clichés sur le thème Ibris, c'est bien ça ?
Oui, c'est un thème lié à l'environnement.
À l'environnement ?
Donc, ce sont des images que j'ai faites au cours de différents reportages et qui abordent des problématiques de désertification, d'avancée du désert, de pollution, avec entre autres la ville de Norilsk en Sibérie, qui est considérée comme la ville la plus polluée au monde. Il y a un travail sur l'huile de palme, donc sur différents thèmes.
Oui, on touche un petit peu sur le côté, le climat, entre guillemets.
Climat, destruction et de la terre, quoi.
Alors, il y a combien d'expositions? C'est vrai que j'ai pas combien de photos vous exposez. Alors, c'est vrai que j'ai pas posé la question à Olivier Larré. Ça représente combien de photos exposées ici au festival?
Ah, j'ai pas compté.
Vous avez pas compté?
Non.
Vous avez même pas une fourchette?
Oh, 25, 30 25 peut-être. Oh, d'accord. Ouais, j'ai pas, non, honnêtement, j'ai pas.
Pour vous aussi, Olivier Larré?
Moi, j'ai aussi une trentaine d'images.
Trentaine d'images? Parce que on se dit qu'il y a quand même énormément de photos exposées ici au sein de ces différents sites à Montier-en-Der. On voit que, voilà, chaque photographe, chaque exposant propose quand même un certain nombre de clichés ici exposés. Alors, vous êtes exposé ici au COSEC,
hein.
Au COSEC, voilà. Alors, cette exposition, on disait, sur le domaine de l'environnement, du climat, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, vous, personnellement, ce
Oui, mais lorsque l'on travaille et que l'on voyage, évidemment, ce problème vient...
En le découvrant.
Oui, vient en découvrant et puis vient dans les rencontres. Il est important, mais il faut être un peu prudent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je trouve que le réchauffement climatique, il a bon dos.
On en fait un peu trop pour vous ?
Oui, pour...
Mais c'est un peu trop.
Voilà. Évidemment qu'il existe, mais il fait partie de différents problèmes qui crée l'ensemble de la dégradation des environnements. C'est-à-dire, souvent, c'est quand même des problèmes politiques, des problèmes sociaux, avec le problème de réchauffement climatique, mais il n'est pas le seul. Et c'est en ça où je veux dire qu'il faut être un peu prudent, parce que des dérèglements sont souvent complexes.
Et c'est ce que vous essayez de montrer à travers vos clichés?
Oui, c'est ce que j'essaie de montrer. Puis bon, comme vous me l'avez demandé, ça fait longtemps que je fais ce métier. Et souvent, je suis retourné dans des pays et je vois quelquefois des reportages sur, si je prends le sud de Madagascar, où on nous parle de la première famine climatique. Madagascar, en 1930, qui a eu 10 000 morts.
Oui.
De la famine. Donc tout ça, faut être un peu prudent. C'est vrai que si on prend Madagascar, il y a des problèmes de sécheresse. Ce qui est vrai, c'est que les cycles sont de plus en plus proches,
oui.
Mais ils ne sont pas plus aigus. Et inversement, le problème de fond, c'est que l'État n'a jamais rien fait, ni pour développer, ni pour protéger ses populations, ni pour créer des puits. Parce que lorsque l'on voit que dans les rivières, les gens creusent pour le sable pour trouver de l'eau, donc si l'eau est si facile à trouver, pourquoi il n'y a pas eu de puits qui ont été faits? Donc tout ça, faut
être prudent.
Prudent, ou faut surtout amener les autres éléments. Faut pas se contenter. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même assez marketing. Mmh. Si vous voulez trouver de l'argent et des fonds, c'est un mot magique. Donc ça existe, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut être un peu plus... Il faut que ce soit un peu plus approfondi dans la recherche.
Pascal Maître, même question qu'à Olivier Larré. Pour nos auditeurs qui ne peuvent pas venir ici vous découvrir ce que vous photographiez exactement. Il y a un site internet où on peut vous retrouver.
Oui, j'ai un site internet, mais je ne connais pas mon site internet.
On vous retrouve sur Google, prénom.
Il me semble que c'est maître-pascal.com, mais je ne suis pas tout à fait sûr.
Bon, aux auditeurs de vérifier.
Voilà.
Merci Pascal Maître, merci Olivier Larré d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, vous êtes bien photographe, à la fois animalier, Olivier Larré, et puis donc photojournaliste côté de Pascal Maître. Merci beaucoup, et qui est également parrain de cette 26e édition. On vous souhaite un très bon festival à tous les deux.
Merci, merci.
Et puis on vous dit à très bientôt sur RCF avec grand plaisir. Merci d'avoir pris ces quelques minutes. Voilà, je vous laisse poursuivre votre journée. Merci beaucoup. Il est 18h passé de 53 minutes.
À Reims,
Chalon,
Troyes,
Charleville-Mézières. C'est le 18-19 en Champagne sur RCF.
On va prendre la direction du côté de l'Argonne ardennaise avec notre invité tout de suite, Éric Jarrose. Je vais y arriver, directeur de l'association de la Maison de la Nature à Beau-au-Bois. Bonjour.
Alors,
je vais réactiver le micro, c'est quand même mieux. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on est du côté des Ardennes pour présenter cette Maison de la Nature, une éducation à la nature et au développement durable. C'est vraiment les mots-clés de cette maison ?
Exactement. C'est une maison, ben vous dites une maison, hein, tout à fait, un grand bâtiment, donc une maison de la nature, qui travaille auprès de tous les publics sur ces deux thèmes-là, donc la nature, la biodiversité et le développement durable.
Alors, quelques chiffres de cette maison de la nature ardennaise du côté de Beaubois.
Alors, quelques chiffres. Alors, on peut parler, moi, je vais vous parler déjà de l'équipe salariée, hein. Moi, je suis pas tout seul pour gérer tout ça. Donc, j'ai 6 collègues. Donc, on est une petite équipe salariée de 7 personnes. Et le chiffre qui pourrait être intéressant, peut-être, c'est surtout au niveau du nombre de participants, car on a dépassé les 10 000 participants à nos activités, par exemple, en 2022.
Ah oui, 10 000 participants en 2022, alors que, voilà, on n'est pas forcément sur l'axe principal de la route des Ardennes et pourtant les gens s'arrêtent à cet endroit-là, les gens viennent dans l'Argonne.
On est un petit peu à l'écart, mais la tendance clairement aussi, c'est de se déplacer pour aller là où se trouve le public.
Alors vous proposez pas mal de choses quand même, hein, dans cette maison de la nature, à la fois pour les plus jeunes avec des animations scolaires, mais aussi pour le grand public avec des formations pour adultes.
Alors le public scolaire, c'est 80% de notre activité, on travaille avec toutes les écoles de la région. On se déplace jusqu'à Vitry-le-François, Givet, dans la pointe des Ardennes, pour ceux qui connaissent. On va vraiment partout. Donc ça, 80% de notre participation. Les adultes, on leur propose des formations, et notamment des formations sur la découverte des milieux naturels, au travers d'une formation qui s'appelle Guide Nature, hein, en toute humilité, qui consiste à acquérir, on va dire, les connaissances de base pour pouvoir, prêcher la bonne parole auprès des habitants, des usagers de tous les territoires.
Éric Jarose, en quoi est-ce important d'être présent ici au festival à Montier-en-Der pour vous ?
Alors on est de la région Champagne-Ardenne, hein, même si maintenant donc nous sommes en Grand Est. C'est important, tout simplement, de se faire connaître. Je pense qu'on se retrouve avec pas mal de structures ayant des valeurs communes, et je pense que c'est justement ces valeurs communes qu'on doit être en mesure de présenter au plus grand nombre. Et le festival ici, c'est quand même une vitrine, hein, de toutes ces activités avec les. Alors je ne sais pas combien il y a de participants. Sur le festival, mais je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui fréquentent l'événement. Donc nous, on y voit là une belle opportunité de présenter nos activités et en même temps de rendre service donc à l'AFPAN en étant partenaire jeunesse.
On parle de plus de 45 000 visiteurs, voilà, lors d'un festival sur 4 jours ici à Montier-en-Der, et on souhaite bien sûr que ce chiffre grimpe pour cette nouvelle édition. Éric Jarose, avant de nous quitter, parce que le temps passe très très vite, la Maison de la Nature de Beaubois, on le retrouve donc du côté de l'Argonne ardennaise et sur Internet aussi.
Alors, sur Internet et depuis peu sur le bassin rémois, car on vient d'ouvrir une petite antenne.
D'accord.
Pour pouvoir aller sur les bassins de population, là où on était très peu présent.
À Reims même.
Alors à Farman, juste à côté.
À Farman, juste à côté, à la sortie de Reims en direction de Châlons-en-Champagne. Voilà. Le site Internet pour vous retrouver.
Donc maison-nature-boult.eu. On voulait avoir une dimension européenne. Donc,
bien sûr. C'est très bien. Vous vous ouvrez aux autres, pas uniquement du côté des Ardennes, et c'est une très bonne chose.
Donc, vous avez tous les renseignements nécessaires, les programmes des sorties, les calendriers, les activités.
Oui, parce que vous proposez également des activités
pratiques.
Sur mesure, d'ailleurs, hein, pour le grand public. En tout cas, vous proposez de très belles choses et on est très heureux de l'avoir fait vivre sur les ondes de RCF. En plus, sur le thème de la biodiversité, on rentre parfaitement dans le thème. Merci Éric Jarose d'avoir pris ces quelques minutes.
Avec plaisir.
Directeur de l'association de la Maison de la Nature à Beaubois dans les Ardennes. À très bientôt.
Merci à vous.